Être et savoir moins le quart, c'est le magazine de l'éducation de France Culture à 17h15 puisque nous faisons carême.
Être et savoir, Louise Touret.
Mes parents me disent souvent que j'ai une forme différente d'intelligence. C'est ce que me confiait Pierre, qui fréquente un dispositif adapté au profil comme le sien, au collège Janson de Sailly à Paris, où je suis allée rencontrer éducateurs et élèves. Des adolescents dont le QI élevé et les aptitudes parfois hétérogènes peuvent rendre la scolarité compliquée. Nous verrons comment on les appelle aujourd'hui, les surdoués, les précoces, les enfants et adultes à haut potentiel, car les termes ont changé. Ce qui est certain, c'est que ces intelligences hors normes suscitent un grand intérêt actuellement, comme en atteste le succès des ouvrages qui leur sont consacrés. Nous aurons deux autrices et des ouvrages qui trouvent des centaines de milliers de lecteurs. On atteste également de grands colloques organisés par l'Éducation nationale, comme il y a quelques jours dans l'Académie de Versailles, et aussi à Paris, en Sorbonne, colloque qui a attiré un nombre record de participants. Alors pourquoi faut-il repenser l'accueil de ces enfants à l'école? Est-ce bénéfique à tous, à tous les élèves, hein? Les hauts potentiels ont-ils tant de difficultés à s'intégrer dans la société? Le sujet fait débat. Enfin, vous l'entendrez, ces précoces dont on se sent si différent et si proche à la fois nous font réfléchir sur la manière dont l'intelligence peut se définir. Et mais c'est peut-être là une pensée plus personnelle sur la façon dont l'intelligence de chacun colore les perceptions, la personnalité, personnalité qui modèle à son tour l'intelligence, l'ensemble faisant de chacun de nous un être qui réfléchit de manière sensible et unique. Et moi, dans tout ça, je suis qui exactement? Alors, ce n'est pas moi, Louise, qui dit ça. C'est Valérie Zenati, autrice et traductrice d'Aaron Appelfeld, entre autres. Elle est au micro de Sophie Bobert pour la leçon de choses. Elle racontera sa migration en Israël à l'adolescence et puis le trouble que lui a causé le fait de devenir soldate pendant son service militaire qu'elle a donc effectué dans ce pays. C'est la leçon de choses et c'est en fin d'émission. Et je prends mon souffle pour saluer mes invités, car vous avez une présentation assez complète et longue. Fanny Nussbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicienne et cognitiviste, chercheur associé en psychologie et neurosciences à l'Université de Lyon, fondatrice du centre Psyrène, centre qui, vous pouvez définir sa mission?
Alors Psyrène, ça veut dire psychologie, recherche et neurosciences, mais la mission du centre, c'est d'accompagner des personnes, et particulièrement des personnes à haut potentiel que nous on appelle philocognitives, pour l'évaluation et le suivi avec différentes méthodes.
Et les philocognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez avec Olivier Révol et Dominique Sapé-Marinier aux éditions Odile Jacob. Même édition pour vous, même éditeur, Jeanne Siofachin, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un peu le rayon d'Odile Jacob, même si j'ai un autre livre publié aux arènes. Tous les enfants sont doués, un peu sur le même sujet. Le titre de votre livre, L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. Et puis un autre plus récent, en fait vous avez publié tout un tas de livres, S'il te plaît aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie, donc toujours chez Odile Jacob. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute, ancienne attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille, fondatrice de Cogito Z, Cogitose.
Cogitose.
Ah, c'est parce que j'ai fait du latin, donc je
prononce aussi, mais finalement, on a choisi.
On avait cette prononciation-là en classe. Enfin, le premier centre en France de consultation psychologique intégrative. Qu'est-ce que la psychologie intégrative?
C'est la psychologie qui peut envisager l'enfant, l'adolescent, l'adulte dans l'ensemble de ses dimensions de personnalité et de fonctionnement. Et comme vous l'avez déjà dit en introduction, c'est-à-dire que ce soit sur le versant cognitif ou le versant émotionnel, la dynamique de personnalité. Parce que bien évidemment, on est tous et tout l'un et tout l'autre, et qu'on ne peut pas distinguer d'un côté l'intelligence qui aurait un fonctionnement à part, ou de l'autre, un fonctionnement émotionnel qui galoperait tout seul et pour son propre service. Et que la psychologie intégrative, elle a pour intention aussi d'intégrer tout le développement de l'être humain, avec ce qu'il a construit, bien évidemment, ce qu'il est aujourd'hui, avec ses fragilités, ses forces, avec ses atouts, et puis aussi peut-être, comme un peintre, avec une palette d'outils, de thérapies, de possibilités qu'on va pouvoir combiner de façon unique dans l'ici et maintenant de la rencontre avec ce patient-là, à cet instant-là.
L'idée étant d'aider les patients qui rencontrent un certain nombre de difficultés, on verra lesquelles. Florence Paris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, c'est plus court, hein, référente académique pour les élèves à haut potentiel au rectorat de Paris. On dit haut potentiel aujourd'hui.
Alors, depuis cette année, après la mission Flash qui a été menée par les deux députés d'Essonne et de Corrèze, en effet, on a modifié l'appellation pour arriver vers les élèves à haut potentiel et non plus les élèves intellectuellement précoces.
Ça va changer un peu plein de sigles. Enfin bon, on est assez peu à parler ce jargon, donc on pourra réviser un petit peu plus tard. C'est vous qui avez organisé ce grand colloque à Paris. Comment expliquer l'engouement et peut-être la reconnaissance de cette question comme une question importante aussi à l'éducation nationale, et puis après on passera à sa reconnaissance dans la société. Florence Paris.
L'idée, c'est qu'on se rend compte en fait maintenant que les élèves à haut potentiel ne sont pas les premiers de la classe ou les enfants brillants comme on l'imaginait avant. Et donc aujourd'hui, on prend conscience que les élèves à haut potentiel, ce sont aussi parfois des élèves qui peuvent rencontrer des difficultés dans la scolarité ou ailleurs.
Parfois, mais pas toujours.
Pas toujours, bien sûr.
Parce que on a eu aussi cette image du haut potentiel ou du précoce, Fanny Nussbaum, qui était malheureux, incompris, rejeté. Et vous vous dites, attention, ça peut être le cas, mais c'est pas le cas général, pas forcément. En fait, les situations sont extrêmement variées et elles varient en fonction de profils qu'on peut dessiner, mais qui eux-mêmes comportent des tas de sous-variétés, voire de gradations à l'infini.
C'est ça. Donc nous, Jeanne et moi, les patients qu'on rencontre en cabinet, évidemment, ce sont ceux qui viennent nous voir parce qu'ils présentent une souffrance, mais c'est pas le cas de la totalité des phylocognitifs ou des hauts potentiels. Et donc, en effet, ils ont des caractéristiques communes et parfois une certaine sensibilité qui fait que leur souffrance, quand elle s'exprime d'une manière particulière, mais ça ne veut pas dire qu'ils souffrent particulièrement plus que le reste de la population.
Et surtout, peut-être rajouter, pour compléter ce que vient de dire Fanny, pardon, c'est que la sensibilité, c'est quelque chose qui est aussi une énorme réserve et une énorme ressource, parce que la sensibilité, ce n'est pas la sensiblerie. Et la sensibilité, c'est la perméabilité au monde, c'est-à-dire de pouvoir se saisir des non-dits, des silences et d'une compréhension très subtile d'un certain nombre de situations. Et c'est ça qui fait que, bien sûr, on ne peut pas dire, et je crois que personne autour de cette table ne l'a dit un jour, que soit les surdoués étaient tous des petits génies, soit les surdoués étaient tous de grands malades, mais il y a une gradation entre tout ça, parce que même si effectivement beaucoup d'entre eux ont un parcours brillant, il n'empêche qu'ils ont ce fonctionnement-là, et que ça sera peut-être important, ou pas, à un moment de leur parcours, de pouvoir les identifier, pas les diagnostiquer, puisque ce n'est pas une pathologie, pour les accompagner, et que justement, on ne se retrouve pas à tant d'écoles, plus 2, plus 3, plus 4, dans des échecs, simplement parce que cet élève-là, brillant, avec des facilités, discute avec ses copains, se fait gronder par les enseignants parce que il pose toujours un peu des questions qui vont au-delà du sujet, parce que il est touché par l'injustice qui va se produire dans la classe et qu'on va lui dire mais arrête de te mêler de tout, parce que finalement il va faire autre chose parce qu'il s'ennuie, tous les enfants s'ennuient. Et, oui. Mais quelquefois, l'ennui peut être, lorsqu'il devient trop compact, trop sérieux, il peut être la bascule qui va transformer cet élève brillant en élève en difficulté. Alors que si on l'avait identifié et qu'on avait compris qu'il avait ce profil-là, il aurait effectivement poursuivi sa scolarité en pleine possession de ses moyens, si je peux me permettre
cette expression. Dans l'histoire de cette question, qui est plutôt l'histoire du discours autour de cette question, des élèves exceptionnellement doués, en tout cas dont on peut reconnaître et mesurer une forme d'intelligence, il y a cette reconnaissance. Cette reconnaissance réclamée par des associations de parents, qui s'est quand même un peu jouée aussi sur la reconnaissance d'un statut de victime. Peut-être l'a-t-on compris comme ça. Certains chercheurs, Nicolas Gauvry par exemple, travaillent sur les hauts potentiels normaux, entre guillemets, normaux. On sait ordinaire, tous que ça ne veut rien dire, mais voilà, ordinaire. Fanny Nussbaum.
Oui, c'est vrai que les associations ont beaucoup milité et je pense qu'on leur doit beaucoup pour démocratiser cette question du haut potentiel de la phylocognition. Et avant ça, c'était pas très connu. Donc, elles ont vraiment beaucoup communiqué. Elles nous ont aidé à communiquer. Elles nous ont donné un porte-voix, un micro pour pouvoir nous exprimer. Mais le revers de la médaille, c'est que en démocratisant la connaissance de ce phénomène, du coup, on en est arrivé à des idées un peu, des idées reçues, des idées un petit peu fourre-tout. Il est au potentiel, alors il a de l'humour, il est hyper au potentiel, alors il s'ennuie à l'école.
Tous les enfants qui s'ennuient à l'école ne sont pas
alors, voilà. Alors, ils ne supportent pas l'injustice. Donc, c'est sûr qu'on a parlé des souffrances parce que les gens qui viennent nous voir et qui viennent voir les associations parlent davantage de leurs souffrances. Mais il y avait quand même des précisions à apporter pour affiner le sujet et ne pas mettre tout le monde dans le même sac.
Cette reconnaissance et cette médiatisation a abouti à une multiplication, alors on ne dit pas les diagnostics, mais des reconnaissances pour le coup individuelles de situations de haut potentiel ou de précocité intellectuelle. Et c'est intéressant parce que c'est la même époque dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous disons que, enfin c'est pas moi, des études disent que le QI serait en baisse. Alors, la baisse n'est pas très impressionnante, et des études d'ailleurs sont également contestées, mais sur une centaine d'années, le QI baisserait dans les pays occidentaux. Il y a eu un documentaire également sur Arte, vous l'avez vu, comment extrêmement intéressant. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop obsédé par cette question de l'intelligence et qu'en est-il de cette explosion du nombre de précoces au potentiel? C'est une explosion de quoi alors, Jeanne Siofachin?
Alors, je pense qu'il faut remettre ce sujet en perspective et un peu dans l'histoire et dans l'histoire de la psychologie et dans l'histoire de la pensée presque. Même si, bien sûr, on va pas retracer cette histoire-là tout de suite ensemble. J'adorerais, mais non. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est que l'intelligence, de toute façon, est une composante de la personnalité qui a toujours fasciné. C'est pas du tout récent. Ensuite, les premiers travaux anglo-saxons sont très anciens, c'est-à-dire que ils remontent vraiment au début du siècle dernier. En France, c'est en 1905 que les premiers tests de ce fameux QI pour quotient intellectuel, qui n'est pas une mesure absolue de l'intelligence, mais qui est un score relatif, qui permet de comparer le fonctionnement de l'intelligence, ce que produit l'intelligence de quelqu'un, comparativement à quelqu'un du même âge chronologique. Et ça, c'est important. On n'a pas 100, 200, 120, 12 QI brut, c'est pas un score absolu. Et donc c'est en 1905 avec Binet, justement pour Alfred Binet, qui était un psychologue de l'éducation nationale, qui souhaitait s'assurer qu'on ne scolarisait pas à l'époque des enfants qui ne pourraient pas suivre la scolarité. Mais pour revenir très rapidement, c'est que dans les pays anglo-saxons, on a tout de suite parlé de gifted, pour doué. C'est ça qui a fait qu'on a, en France, utilisé le terme de surdoué. Ça a été introduit en France par un psychiatre franco-argentin, Ajoria Guerra, dans les années 70. Et c'est lui qui a fait que le premier terme en France a été surdoué. Donc c'est le terme historique mais dans la littérature internationale aujourd'hui, ça je voudrais juste le souligner, c'est important, on parle toujours de gifted. Dans toute la littérature, on parle de gifted, auquel quelquefois on rajoute untalented, c'est-à-dire surdoué et talentueux.
Ce qui correspond à...
High potential aussi.
Oui, au potentiel.
Pas trop, au potentiel, c'est plutôt francophone.
On l'utilise aussi dans la littérature scientifique, on l'utilise aussi, oui.
Voilà pour le point taxonomie.
Sûrement plus précoce, pardon Louise, mais sûrement plus précoce, ça c'est fini. Et ça c'est génial, et merci à l'éducation nationale, parce qu'on était très empêtré avec cette notion de précocité qui donnerait alors cette sensation que ça serait aller plus vite et qu'à un moment, tout le monde serait pareil. Donc là, on induisait vraiment quelque chose de développemental qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement des surdoués ou des hauts potentiels.
C'est fini pour vous dans la vie normale. Les gens l'utilisent encore énormément.
Surtout pour on sait que, je vous coupe la parole, Louise. Ce qu'on sait, merci. C'est qu'au niveau des caractéristiques cérébrales, il n'y a pas d'avance chez les hauts potentiels phylocognitifs. Il y a simplement une meilleure qualité des connexions cérébrales, mais ça ne veut pas dire que ce soit une avance.
Ça, c'est ce qu'on peut observer quand on observe le fonctionnement du cerveau par imagerie cérébrale.
C'est ça.
Parce qu'il faut quand même le dire, puisque le QI se mesure, à quel score de QI, ça correspond, puisque c'est la mesure dont on dispose aujourd'hui.
On peut dire à quel score ça correspond en France.
En France. Non, ça correspond sur un plan international. Si on prend toutes les mêmes échelles internationales, comme les échelles de Wechsler, par exemple, qui sont les échelles les plus utilisées dans le monde, eh bien, de convention scientifique internationale, on considère que d'avoir un QI de 100, on est dans la norme. On peut dire que 50% de la population a un QI compris entre 90 et 110. Et après, on s'écarte de cette norme. C'est pas la normale, c'est de la norme statistique. On s'écarte de cette norme statistique de 15 en 15. Et à partir de 130, on considère qu'on est effectivement surdoué, haut potentiel, et une fois encore, peu importe le nom, parce que c'est ça qui est très rassurant aujourd'hui, c'est que vous disiez qu'il y a eu beaucoup de publications, et bien sûr c'est vrai, on pourrait se dire que c'est à la mode, et peut-être tant mieux, parce qu'à partir du moment où c'est à la mode, ça veut dire qu'on met un focus sur ces enfants, en particulier à l'école, qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais été pris en compte pour ce qu'ils étaient, et non, il n'y a pas plus de surdoués ou de haut potentiel aujourd'hui qu'il y en avait avant. Statistiquement, il y en a toujours 2,3% de la population.
Et vous avez fini par répondre à ma question, Jeanne Siofachin, et je vous remercie parce que vous avez fait plusieurs transitions. D'abord sur l'école, on va entendre un reportage que j'ai tourné au collège du lycée Janson de Sailly. Et puis une chanson, vous parliez de Gifted Children, c'est la chanson qu'on va entendre maintenant.
C'est bien. Teach the gift to children. Teach them to have mercy. Teach them all about sunsets. Teach them all about moonrise. Teach them all about anger, the sin that comes with dawning. Teach them all about flowers and the beauty of forgetfulness. Then take me to the river and put me in the water. Bless them and forgive them, Father, 'cause they just don't. Children, teach the gift to children.
Soon Na qui interprète Teach the Gifted Children, une reprise de Lou Reed, et merci à Philippe Baudouin d'avoir trouvé cette pépite musicale. Je le disais, j'ai rencontré des élèves au collège Janson de Sailly, j'ai aussi rencontré des assistants d'éducation, psychologues de formation, et puis une enseignante, et puis le proviseur adjoint, Monsieur Han.
Le dispositif de Janson de Sailly existe depuis 2003. Il a été créé à l'initiative d'un ancien proviseur de Janson de Sailly, Annie Forestier, qui était très sensible à la question de la prise en charge de la précocité. Nous scolarisons entre la 6e et la 3e une quarantaine d'élèves précoces qui arrivent à Janson au terme d'une affectation liée à une commission du rectorat de Paris qui affectent donc les élèves sur des critères liés bien sûr à la précocité, au quotient intellectuel et surtout aux difficultés scolaires associées.
J'ai cru comprendre qu'il y avait ici à Janson de Sailly une salle spécifique dans laquelle les élèves pouvaient se rendre quand ils n'arrivaient pas forcément à rester en cours ou quand un enseignant estimait qu'il était trop difficile de les garder en cours. Ça prouve qu'il peut y avoir un des problèmes de comportement, deux, qu'il y a une solution pour les régler.
Si vous voulez, ce lieu est un lieu d'accueil, d'écoute, de parole, de travail, et également quand l'élève commence à monter un petit peu trop en pression en classe et que les difficultés se font sentir, notamment certaines angoisses de performance quand il passe des contrôles ou quand il y a une hyperactivité, ils peuvent demander au professeur de sortir et de venir sur le local.
Je pense que j'ai un peu de mal à me... Pas forcément, c'est pas de la concentration vu que je peux me concentrer. C'est plus que je me mets pour commencer à réfléchir à quelque chose et je me mets à me... Je commence un peu à partir dans la lune. Même, je vais me concentrer pendant 10 minutes, puis après je pense à quelque chose et je pars.
Je me concentre plus parce que souvent les cours sont déjà dits à l'oral et comme j'ai une mémoire auditive, j'aime pas trop qu'on répète tout le temps les mêmes choses.
Souvent, ces élèves à haut potentiel ont une pensée qu'on appelle une pensée en arborescence, où en l'espace d'un dixième de seconde, ils peuvent se retrouver sur Mars en train de boire un verre de craie, par exemple. Et comment ils sont arrivés là, eux-mêmes, la pensée va tellement vite qu'ils sont pas nécessairement en mesure de l'expliquer. Donc en fait, ça saute et ça va très très vite. Sauf qu'à l'école, on nous apprend à penser en entonnoir et eux ont une pensée en arborescence. Donc penser en synthétisant, c'est une grosse contrainte pour eux. C'est un cadre qui est assez coûteux, notamment pour leur manière de penser justement. C'est ça qui est souvent difficile pour ces élèves-là.
Quand les professeurs expliquent, souvent... les élèves demandent des explications plus claires et du coup, au final, ça se resserre et ça devient extrêmement synthétisé. Alors que justement, parfois, j'aimerais plus d'explications détaillées, plus d'explications tout court, en fait. Pas forcément sur le même sujet, peut-être des sujets à côté qui n'ont pas forcément un rapport si énorme avec la chose qu'on traite, mais... Du coup, j'aimerais plus qu'on relâche le sujet, on va dire, qu'on relâche la conversation.
En mathématiques, par exemple, pour ces élèves-là, souvent, ce qui peut poser problème dans leur manière de fonctionner, c'est qu'ils ont les maths intuitifs. Les maths intuitifs, c'est-à-dire que la réponse apparaît de manière immédiate. Et le fait de développer un raisonnement, d'expliquer comment ils arrivent à ce résultat, c'est ça qui est extrêmement pénible pour eux.
Comment vous avez été diagnostiqués à haut potentiel tous? Vous avez fait des tests? Comment ça s'est passé?
Quand j'étais en CM1, ma professeure s'est rendue compte que je ne suivais pas vraiment comme j'avais quelque chose de différent. Donc en CM2, on m'a fait passer des tests. Au premier test que j'ai fait, c'était en début d'année, j'ai eu 135 de QI. J'ai fait un deuxième test de précocité donc pour pouvoir entrer ici. Donc cette fois, j'ai eu 145 de QI.
Toi, comment tu as été diagnostiqué, si tu le sais?
C'était en CE2. J'avais un professeur qui me comprenait bien, qui me donnait des travaux supplémentaires, et du coup, des travaux. Et du coup, on m'a proposé de passer un test. Donc c'était pendant un week-end, je crois, pendant 3 heures. Il y avait plein de petits exercices, surtout de logique. Et après, on a reçu les résultats.
Tu connais ton QI, toi ?
Je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est soit 139, soit 149.
Mais ce qui est intéressant, on en a souvent parlé avec les collègues référents, c'est qu'en nous intéressant à la précocité, finalement, nous avons modifié l'ensemble de nos cours et nos rapports avec les autres enfants des classes. Et ça devient bénéfique pour toute la classe. On ne néglige pas les autres enfants. Au contraire, je trouve que grâce à l'intégration des précoces, nous sommes amenés à mieux nous occuper de l'ensemble de la classe. Je ne sais pas ce qu'en pensent les enfants, mais ça donne une dynamique qui est absolument passionnante hein, quand ils sont dans nos classes.
C'est Isabelle Bertrand, professeure de français, professeure référente de ce dispositif pour les élèves à haut potentiel, puisque c'est le terme maintenant. Les élèves, c'était Léo, Tito qui sont en quatrième, Pierre qui est en troisième et Paul qui est en première. Et puis la coordonnatrice Aurore Bancal. Il y a deux dispositifs tels que celui-là à Paris. C'est bien ça, Florence Paris ?
C'est exactement ça. Nous avons Janson de Sailly en collège et aussi le collège Brassens.
Dans le 19e arrondissement.
Dans le 19e arrondissement. Mais la politique actuelle, c'est de se dire que n'importe quel élève à haut potentiel sera scolarisé, pardon, dans son établissement de secteur. Et c'est pour ça qu'on met en place des actions de formation de plus en plus nombreuses pour éclairer les enseignants et toutes les équipes éducatives et pédagogiques sur ce sujet-là. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des commissions académiques que je mets en place depuis 2012, depuis que j'occupe ce poste de référent académique. Et c'est grâce à ces commissions académiques qu'on identifie les élèves qui seront accueillis dans ces dispositifs de Brassens et de Janson. Et c'est aussi grâce à ces commissions académiques que nous voyons des situations d'élèves entre 200 et 250 chaque année. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de besoins par rapport à ces élèves-là qui demandent parfois autre chose que ce qu'on leur donne dans la scolarité ordinaire.
Alors, il y a plusieurs choses qui viennent tout de suite à l'esprit. D'abord, la question des moyens, parce qu'on dit souvent qu'on en manque dans l'éducation nationale. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces moyens? Comment est-ce qu'on se forme? Et puis, des profils particuliers, il y en a plein. On pense plein d'élèves en difficulté scolaire qui ne sont pas tous à haut potentiel et dont on n'est pas sûr qu'on puisse tous s'occuper. Comment on arrive à organiser tout cela au mieux dans un contexte où, je le disais, les moyens sont limités?
C'est ça. Alors c'est pour ça qu'on a mis depuis l'année dernière à Paris sur le rectorat une cellule académique pour les élèves à haut potentiel. Et depuis la fin de l'année scolaire dernière, on a mis aussi en place un groupe de travail pour les élèves à haut potentiel pour répartir les moyens de façon assez générale dans tous les secteurs de la ville de Paris. Et puis aussi pour que ces formations puissent se faire en local à peu près dans tous les secteurs de la maternelle au lycée.
Alors, et moi, puis, cette histoire. Il y a quand même ce travail de la commission de l'éducation nationale auquel nous étions.
Donc, à laquelle nous étions tous les deux.
Oui, mais c'est quand même le produit, je pourrais dire, même si c'est une initiative de l'Académie de Paris, mais c'est le produit aussi d'un travail qu'on a fait à un certain nombre d'experts. Interne à l'éducation nationale, externe, des professionnels de différents champs, un travail qu'on a fait justement pour pouvoir regrouper et se mettre d'accord sur une ligne de pensée, même si on peut avoir des divergences quelquefois sur la façon d'envisager cette population-là et de la comprendre, mais qu'on puisse arriver à un consensus qui a permis de produire un vademécum qui est aujourd'hui en ligne sur le site de Eduscol et auquel tous les enseignants de toute la France, du plus petit village au fin fond du bout du champ, puissent se référer lorsqu'il y a un questionnement, donc il y a une grille d'observation qui a été mise en place, pour qu'on puisse effectivement aider les enseignants concrètement sur le terrain à repérer des particularités de fonctionnement qui pourraient éventuellement évoquer ce profil-là, parce que vous l'avez très bien dit, Louise, et c'est très important, c'est que, bien sûr, il y a des enfants en difficulté qui peuvent être au potentiel, mais aussi, souvent, et Fanny Nussbaum le disait tout à l'heure, c'est que quand on est en difficulté, c'est aussi qu'on peut avoir des troubles associés. C'est-à-dire qu'on peut être à haut potentiel et avoir une dyslexie, être à haut potentiel et avoir une dyspraxie, être à haut potentiel et avoir un trouble de l'attention. Et à ce moment-là, le bilan va pouvoir permettre de faire la part des choses, parce que quelquefois, avec l'intelligence, dans les petites classes, on compense. Et quand on arrive dans les grandes classes, ça explose. Et c'est pas à cause du haut potentiel, c'est à cause du trouble associé qui n'avait pas été identifié.
Fanny Nussbaum.
Voilà, donc parfois, en effet, ça explose aussi parce que, du fait du fameux syndrome de l'imposteur, parce que ce sont des enfants qui ont eu l'habitude, depuis tout petit, d'avoir des facilités dans leur travail. Donc, ils n'ont pas pris l'habitude de travailler, d'avoir une méthode, d'être des besogneux. Et puis, arrive un moment où simplement les facilités ne suffisent plus. Alors souvent, c'est à l'entrée en 6e, 5e, parfois au mieux, c'est à l'arrivée en seconde, première. Et puis là, tout d'un coup, ils se disent, mais en fait, je suis un imposteur, c'était pas vrai que j'étais intelligent. Et ils se disent ça parce que pour eux, l'intelligence, c'est associé à la facilité. Ils n'ont pas perçu parce que l'environnement leur a aussi renvoyé ça.
C'est aussi notre image de l'intelligence et d'une certaine forme de talent.
C'est ça, mais l'intelligence sans travail, ça ne vaut pas grand-chose finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit leur enseigner, qu'on doit leur enseigner très tôt. Et c'est pour ça que on critique beaucoup, par exemple, le saut de classe. Alors, il y a deux manières de stimuler davantage un élève. Il y a le saut de classe ou l'enrichissement. Et donc, c'est vrai que le saut de classe a beaucoup été critiqué parce qu'on va dire que c'est pour une élite, qu'on veut leur faire passer des étapes, qu'on les stimule trop. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, ça les met un petit peu en difficulté et ça les pousse à apprendre à travailler. Et quand ils apprennent à travailler, ben, du coup, ils ne se retrouvent pas dans ce type de problématique plus tard.
L'idée étant d'être stimulé intellectuellement, on le comprend. Alors, c'est vrai que le saut de classe, il y a eu des époques où c'était beaucoup pratiqué, ça l'a été beaucoup moins. Ça revient un petit peu, mais il faut beaucoup plus le justifier. En tout cas, les hauts potentiels que j'ai rencontrés avaient 1, 2, 3 ans d'avance. Mais c'est pas sur cette question que je veux revenir avec vous, Florence Paris. C'est que finalement, en voyant comment fonctionnait le dispositif avec des professeurs référents, des coordinateurs, un suivi très proximal des élèves, moi, ça m'a rappelé l'éducation prioritaire, les REP+, j'y ai travaillé, c'est le milieu que je connais bien, où là aussi, on organise des réunions avec les travailleurs sociaux, les médecins scolaires, les infirmières. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait s'occuper de tous les enfants qui fréquentent nos écoles, finalement?
Si, bien sûr, absolument. Et notre idée, c'est bien de répartir cette expertise de Janson et Brassens dans tous les établissements scolaires. Et vous avez raison de le rappeler, ce qui est important, c'est de croiser les regards. C'est aussi pour ça que quand on a une particularité dans la situation d'un élève à haut potentiel sur le milieu scolaire, on va organiser une réunion d'équipe éducative avec tous les partenaires qui travaillent par rapport à cet élève-là pour essayer d'identifier quels sont ses besoins particuliers et quels projets spécifiques il va nous falloir mettre en place pour accompagner au mieux sa scolarité.
L'idée, ce serait d'avoir le temps de connaître les enfants. J'ai lu une tribune très intéressante d'une professeure de lettres en lycée, s'appelle Fanny Capel, son association c'est Sauver les lettres, mais sa tribune c'était sur le temps qui manque aux enseignants à l'école pour s'occuper et de leurs cours et de leurs élèves. En plus, après, il y a les questions d'orientation qui peuvent être assez brûlantes, on le sait, avec Parcoursup. Ce temps, est-ce que les enseignants vous disent ben voilà, on manque aussi de ces moyens-là pour s'occuper de ces élèves qui ont un profil particulier, comme tant d'autres? Fanny Nussbaum.
Je suis pas sûre qu'il y ait forcément besoin d'un temps supplémentaire, mais surtout d'une écoute supplémentaire et d'un œil supplémentaire ou différent par rapport à ces enfants-là. Donc simplement les voir comme des enfants différents, parce que vous avez raison, l'intelligence finalement, si tant est qu'on est doté d'un cerveau en bonne santé, eh bien tout le monde peut être considéré comme intelligent. Simplement voir la particularité, l'intelligence de chacun, et ça, ça demande pas particulièrement plus de temps.
Oui, mais l'attention à la singularité, ça va un peu à l'encontre de l'histoire de notre école républicaine qui fait c'est de ça. L'enfant un élève. Être un élève, c'est censé le protéger en le rendant l'égal de tous les autres. C'est un citoyen de l'école. Mais quelque part, ça peut faire évidemment qu'on néglige des particularités qui parfois sont importantes. Alors non, vous, Florence Paris, vous allez me dire que ça va, on arrive à tenir compte de toutes ces singularités.
Non, j'allais vous dire, c'était bien l'optique de l'organisation de ce deuxième colloque cette année à Paris, qui était la semaine dernière. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que l'amphi était plein. Donc, on avait plus de 1000 personnes entre le 12 et le 13 mars qui étaient là pour se former mieux sur ces particularités. Et c'est très encourageant pour la suite, justement, parce que plus on aura de personnel formé, mieux ça sera pour tous ces élèves à haut potentiel qui peuvent parfois avoir des difficultés. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ce qu'on aura fait pour ces élèves singuliers, ça va servir à tous les autres élèves. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose de particulier pour un élève à haut potentiel, ça fait avancer la scolarité et la pédagogie de tous. C'est ce qu'on vous disait aussi dans le reportage tout à l'heure à Janson, d'ailleurs.
C'est ce que disent également les spécialistes de la question du handicap. hein, à l'école. Jeanne-Sio Fachin.
Oui, je voulais tout à fait rebondir là-dessus, et parce que vous l'avez introduit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ces élèves-là, ils ont de réelles particularités qui peuvent faire science finalement dans un environnement scolaire, ça oblige à mobiliser notre attention sur les besoins spécifiques de ces élèves-là, et donc de s'interroger et de mieux comprendre leur fonctionnement. Je suis tout à fait d'accord avec Fanny, c'est pas forcément une question de temps, c'est une question de modifier sa posture et modifier sa capacité à s'ouvrir à cette diversité. Et à partir du moment où on ne peut pas, parce que ce qu'on va pouvoir traficoter avec un élève plus standard, ça passera pas avec cet élève-là. Mais même nous, les psys, c'est en fait ça nous oblige à aller plus loin quelquefois, parce qu'on peut être déstabilisé par ces enfants-là, par ces adultes-là en consultation. On peut pas tout à fait être, nous les psys, comme les enseignants, dans une attitude habituelle. Donc ça nous oblige à nous améliorer, ça nous oblige à aiguiser notre expertise, et je crois que c'est la même chose à l'école, et de pouvoir dans un regard plus à 360 degrés, donc c'est une question de regard bienveillant et pas forcément de pédagogie adaptée. Pour les HP, pour tous ceux qui ont des difficultés particulières, pour le handicap quel qu'il soit, pour les troubles d'apprentissage ou les troubles plus moteurs, ça permet d'aiguiser sa capacité à accepter la différence et la diversité. C'est ça l'école inclusive, je crois.
Est-ce que vous avez l'impression que le regard change aujourd'hui, oui. Fanny Nussbaum?
Oui, le regard a changé, bien sûr qu'il a changé. Jeanne a raison. Et je crois que la plus grande victoire qu'on a, je pense qu'on peut s'attribuer les uns et les autres, c'est que les parents sont soulagés parce que c'est plus la faute d'eux, c'est plus considéré comme un handicap, mais comme peut-être une force. Donc ça, c'est chouette. Et puis par rapport à ce que disait il y a un instant Florent et Jeanne sur le fait que la particularité de ces enfants peut aider toute la communauté, les neurosciences le montrent aussi, c'est-à-dire que ce qu'on va nous évaluer en tant que chercheurs en neurosciences des caractéristiques cérébrales de ces enfants-là, ça pourra servir à tout le monde, parce que si on sait par exemple qu'il y a une activité particulière du cortex préfrontal, eh bien on va chercher à développer ces qualités-là dans une discipline qui s'appelle la neuroéducation.
Merci beaucoup, merci à toutes les trois. On retrouve les références des livres cités sur le site de France Culture à la page d'Être et Savoir. Tout de suite, la leçon de choses. Cette semaine, Sophie Bobert a rencontré l'autrice et traductrice Valérie Zenati. Son destin d'enfant et d'adolescente fut marqué par une émigration en Israël, dans une petite ville.
Avant le départ, j'étais bizarrement très excitée à l'idée de partir et pas du tout, pas angoissée à l'idée de quitter Nice, mes amis, le collège. À l'époque, bon, j'entrais dans l'adolescence, donc période perturbée ou houleuse s'il en est. J'avais une image de première de la classe que j'étais, donc très sage, trop sage certainement. Donc à l'époque, c'était tout le monde rêvait plus ou moins d'être Sophie Marceau dans la Boom, puisque c'était le succès de la Boom 1 et 2. Et secrètement, je pense que je rêvais vraiment de me transformer en Sophie Marceau en quittant la France et en arrivant en Israël. Voilà, par la grâce de ces quelques heures d'avion et de ce déplacement, je rêvais d'être quelqu'un d'autre, d'une métamorphose. Et puis, c'est avéré que le miracle ne s'est absolument pas produit. Je suis arrivée à Beersheba, j'avais toujours les cheveux bouclés. J'étais toujours aussi timide. Je n'étais plus première de la classe, puisque je n'étais plus rien.
Une disgrâce.
Oui, tout était bouleversé, tout était chamboulé. Plus aucun repère, ni dans la langue, ni dans l'espace, ni dans ce que ces choses-là représentaient.
Oui, c'est-à-dire que pour la langue, vous avez dû vous mettre à l'hébreu, qui est une langue très, très différente. Il y a un documentaire de Nourrit Aviv qui s'appelle « D'une langue à l'autre », dans lequel Aaron Appelfeld, dont vous avez été l'amie très proche et la traductrice, raconte que pour lui, l'apprentissage de l'hébreu, c'était comme d'avaler du gravier. Est-ce que pour vous, ça vous a fait le même effet ?
Je crois que pour moi, ce qui s'est passé, c'est plus une sensation d'aphasie et de gorge, de gorge serrée, dans laquelle les mots ne pouvaient absolument plus passer puisqu'ils n'existaient pas. C'est une sensation de perte, de sol qui se dérobe. Mais voilà, ce sont d'autres sensations physiques, mais très très fortes.
Mais comment est-ce qu'on fait pour s'affirmer lorsqu'on a 13 ou 14 ans, lorsqu'on n'a pas les mots au collège ou au lycée ?
On ne s'affirme pas du tout. On ne s'affirme pas. On est relégué à la place de celle qui ne comprend pas, de celle qui ne sait pas, de celle qui ne sait pas dire ni ce qu'elle pense ni ce qu'elle ressent, donc de celle qui a priori n'a ni pensée ni émotion. Et j'ai appris à vivre avec cette grande, grande question qui m'a hantée pendant des années en Israël et qui était « Mais qui serais-je devenue si j'étais restée en France ?»
Oui, mais avant ça, avant votre retour en France, il y a une autre étape qui a été importante pour vous, Valérie Zenati, c'est l'entrée à l'armée. Puisque lorsqu'on vient en Israël, même si on est une fille, on passe par la case armée à l'âge de 18 ans. Et vous, une fois la langue adoptée, ce sont les codes de l'armée que vous avez dû intégrer. C'est-à-dire que vous devenez le matricule 38-10-159, régiment 3, compagnie D. Et vous racontez qu'avant tout, malgré la peur, malgré la fascination que vous avouez pour le fusil, il y a le romanesque.
Alors, fascination pour l'arme, c'est une fascination inquiète, parce que tenir une arme entre ses mains quand on a 18 ans et quand on sait qu'il suffit d'appuyer sur une gâchette pour tuer, c'est très troublant. Et là, encore une fois, propulsé dans une forme de fiction, parce que qui peut croire qu'à 18 ans, moi-même, je me prenais au sérieux, j'avais le sentiment d'être déguisée, d'être totalement déguisée en portant cet uniforme, en ayant cette arme. Et de nouveau, la question se posait, mais qui suis-je et qu'est-ce que les gens voient ?
En revanche, en dépit du fait que vous avez l'impression de rester la même jeune fille, un changement opère dans le regard de vos parents. C'est-à-dire que, je vous cite, hein, vous écrivez dans votre livre « Quand j'étais soldate », « On ne parle pas à un soldat comme à un adolescent. Personne ne lui demande de ranger sa chambre, de baisser le volume de la musique et de libérer la ligne téléphonique. Ces phrases qui rythmaient ma vie avec mes parents, je ne les entendrai plus. La rupture me semble brutale. »
Oui, c'est vrai. Il y a effectivement quelque chose qui commence là, dans l'âge adulte. Dans la propulsion du jeune, de l'adolescent ou de l'adolescente dans l'âge adulte, et en particulier dans le regard des autres. La société considère qu'à partir du moment où on porte un uniforme et où on est soldat, on devient un adulte responsable pour le pire et le meilleur. Et moi, dans tout ça, je suis qui exactement ?
Et Valérie Zenati publie « Dans le faisceau des vivants » aux éditions de l'Olivier. Quelques secondes pour vous conseiller un documentaire « Les couleurs de nos origines » tourné au collège Fabien de Saint-Denis par Claire Doutrieux qui travaille sur Arte mais qui était en résidence un an comme le font certains artistes et donc certains journalistes dans ce collège. C'est un très beau documentaire qui sera disponible 2 mois sur arte.tv et sur YouTube. Et nous, la semaine prochaine, nous parlerons d'un film, un film qui aborde la question brûlante de la carte scolaire et de l'évitement scolaire. C'est avec Michel Leclerc et la scénariste Baya Kasmi. Et le film s'appelle La lutte des classes avec Laila Bekti et Edouard Baird. Merci à tous. Philippe Baudouin à la réalisation. Avril Ventura qui a conçu et préparé cette émission avec moi. Et Alexandre Dang à la prise de son. Bonne soirée à tous.